Je vous lis dans la parole la première épître de Jean, chapitre 2, versets 7 et verset 24. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Déjà, ces quelques versets pour nous rappeler que nous sommes réunis ici, non pas parce que nous avons inventé quelque chose, non pas parce que nous avons découvert soudain une approche particulière de Dieu. Non, ce sont des choses qui ont été révélées, manifestées, du temps des prophètes et des apôtres. Nous suivons une ligne, un déroulement. Nous poursuivons une histoire qui a commencé en réalité dès que Dieu a parlé aux hommes, mais plus précisément pour l'histoire du salut, lorsque Dieu a révélé à un certain Noé qu'il fallait qu'il construise une arche pour que l'humanité soit sauvée. Et puis ensuite, un certain Abraham qu'il a appelé à sortir de son monde païen. Et puis un certain Moïse à qui il a révélé sa loi. Et tout un peuple avec lui, avec les enfants d'Israël, à qui il a mis à part. Et puis un certain David, le roi qui a régné selon Dieu, avec toute la sagesse et le cœur d'amour de Dieu. Et puis les prophètes qui ont averti, repris, corrigé le peuple. Et puis Jésus qui s'est manifesté et ses apôtres qui ont enseigné, qui ont tout repris l'enseignement des prophètes et de Jésus pour nous montrer la voie du salut. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ce matin, c'est pour transmettre le même message, la même parole, la même vérité que nous avons nous-mêmes reçue. Nous n'avons rien inventé et nous donnons maintenant ce que nous avons reçu de la part de Dieu et de ses apôtres. Alors, je développerai ce message tout à l'heure, mais déjà, rappelons-nous, nous prêchons Jésus-Christ tel que l'apôtre Paul lui-même disait, je vous ai enseigné avant tout et cet évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, selon les Écritures. Voilà ce message fondamental que nous véhiculons. Nous sommes des véhicules du message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Un autre texte d'introduction. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 36 et 37. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Nous avons découvert la vérité avec bien d'autres et après bien d'autres. Aussi, nous désirons être en communion avec tous ceux qui obéissent à la vérité. La parole de Dieu n'est pas sortie de chez nous, elle n'est pas, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir reçue. Il y a depuis le temps des apôtres, du Seigneur et des apôtres, toute une compagnie de croyants, toute une histoire de l'Église. Et dans cette histoire de l'Église, eh bien, nous pouvons reconnaître une multitude de fidèles, une multitude qui ont cru, qui ont mis en pratique la parole de Dieu. Et donc, nous désirons nous rattacher à tous ceux qui, au cours des siècles, ont contribué à la transmission de cette parole, de la vérité et à la vie qui va avec. Tous ceux qui ont été des témoins, des exemples, les saints, les bienheureux maintenant, qui sont auprès du Seigneur après avoir combattu, éprouvé leur foi, témoigné dans l'opposition, résisté aux séductions et voilà, porté comme cela le témoignage de l'Évangile tout au long des siècles, dans des circonstances et avec des contextes différents. Mais c'est vraiment l'œuvre que le Seigneur a poursuivie à travers tous et donc nous désirons être en communion avec tous ceux qui sont leurs héritiers aujourd'hui et qui agissent pour perpétuer, donc avec dans leur faiblesse, la même conviction et surtout marcher dans la même attente et la même espérance du Seigneur. Prions et méditons encore ensemble la parole de Dieu. Seigneur Dieu, Père, nous te bénissons et nous te demandons ta bénédiction sur ce temps de commentaires, de prédications, d'exhortations à travers ta parole. Sois présent et à l'œuvre par ton Saint-Esprit dont nous invoquons la présence en nous et au milieu de nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous entretenir de l'auteur et de l'apôtre de notre salut, Jésus-Christ, qui donc nous a été prêché depuis bien longtemps et qui reste le même pour nous sauver. Nous désirons être placés sous son autorité. Sous l'autorité de Dieu à travers Jésus-Christ. Et pour connaître l'autorité, il faut connaître l'auteur, qui il est, qui, ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons pour cela une épître qui nous aide, bien sûr toute la parole, mais il y a une épître en particulier qui nous entretient de ce qu'est Jésus, c'est l'épître aux Hébreux, dont je vais m'inspirer pour ce message. Avec, je dirais, une introduction massive, dans laquelle en trois versets, tout est contenu et qui sera développé, en fait, au cours de l'étude. Voilà, le Seigneur dit... D'abord, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, c'est bien connu, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et par qui il a aussi créé le monde, ou l'univers selon les versions. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors je vais essayer de redire, et tout au long de ce message, on peut dire de façon approximative et hésitante ce que j'espère le Seigneur va inscrire dans vos cœurs comme étant certain et définitif. Dans cette introduction, je dirais que, premièrement, Jésus, le Fils en fait de Dieu, nous est présenté comme héritier de tout ce que Dieu a créé par lui. Dieu a commencé par créer, c'est par son Fils qu'il a créé. Et maintenant, il l'a rendu héritier de tout ce qui a été créé. Le deuxième point, c'est que ce Fils est l'expression visible et la puissance d'action de Dieu. Troisièmement, qu'il est le solutionneur de notre problème insoluble, c'est-à-dire le péché. Et quatrièmement, qu'il est souverain du monde spirituel. Souverain du monde spirituel, ça réapparaît tout de suite au verset 6, 5 et 6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est ce qui est établi. Mais très vite, il est question, dans cet épître, du chemin de cette destinée glorieuse. Le chemin qu'a emprunté le Christ pour cette destinée glorieuse. Et si nous allons au chapitre 2, versets 5 à 10, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a quelque part rendu ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé de ce qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que tout lui soit soumis. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Nous retrouvons cette question de perfection à travers les souffrances au chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc le chemin vers la destinée glorieuse, ça a d'abord été ce chemin d'abaissement. pour un temps au-dessous des anges, participant de la souffrance et mettant la perfection à son obéissance jusqu'aux souffrances de la croix. Mais voilà que cela, il l'a fait, mais il ne l'a pas fait pour lui seul, il l'a fait pour nous. Pour tous ceux qui lui obéissent après avoir été à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tous ceux qui lui obéissent, c'est nous. Ben, je crois qu'ils prenons le même chemin qu'il a pris. Puisque son obéissance à lui a consisté à s'abaisser et à aller dans la souffrance jusqu'à la mort, eh bien, notre obéissance consiste déjà à le glorifier, l'apprécier totalement dans ce qu'il a souffert et à accepter pour nous-mêmes ce chemin d'abaissement. Donc, tout ce qui concerne Jésus nous concerne dans notre relation à Dieu et notre avenir éternel. À cause qu'il a été abaissé au-dessous des anges et qu'il a souffert. Ces souffrances ont changé notre relation avec Dieu et notre espérance. En un mot, Christ a souffert pour vous. Recevez cette simple pensée. Christ a souffert pour vous. S'il n'avait pas été abaissé, s'il n'avait pas souffert, tout irait très bien pour lui auprès de Dieu. Mais sans vous, il serait demeuré seul dans la gloire éternelle. Et vous, définitivement éloigné du Père à cause du péché. Toute l'incarnation, l'abaissement, la mort et ensuite l'élévation de Christ, c'est pour vous. C'est pour vous qu'il est venu, c'est pour vous qu'il a souffert, c'est pour vous qu'il a été obéissant, c'est pour vous qu'il est allé jusqu'au bout, c'est pour vous qu'il est mort, c'est pour vous qu'il est ressuscité, c'est pour vous qu'il est maintenant à la droite de Dieu. Donc voilà comment cela s'est fait. Vous le savez, mais je vais vous le répéter. Il est devenu homme pour nous. Et par lui, les choses que Dieu voulait se sont faites. Parce que tout cela, c'est la volonté de Dieu. Le Fils a dit « Me voici ». Envoie-moi, parce que Dieu cherchait quelqu'un pour résoudre l'insoluble. Dieu voulait, et on va le lire dans plusieurs textes, d'abord Dieu voulait de nombreux fils dans sa gloire. Oui, il avait le Fils unique qui était dans sa gloire, mais il en voulait d'autres. Il voulait un grand nombre de fils dans sa gloire. Et puis il voulait une maison pour son fils. Et puis il voulait qu'un grand nombre croie en sa réalité invisible et lui fasse confiance pour leur salut. Et il a trouvé Jésus pour réaliser cela. Chapitre 2, versets 9 à 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous, ainsi il convenait à celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Celui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. On agite tout de suite les filles aussi, parce que comme ça, ce sera réglé. Autrement, il n'y aurait que des hommes dans le royaume de Dieu, ça ne va pas ça. Donc, celui qui voulait conduire des fils et des filles, il y a quelques mentions dans les Écritures où les fils et filles sont mentionnés. Mais les apôtres vont à l'essentiel dans leur prédication. Donc, Dieu voulait de nombreux fils dans sa gloire et il a donné Jésus par ses souffrances. Il a permis que de nombreux fils soient sauvés et parviennent à la gloire. Chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ a été établi comme fils de la maison de Dieu qui est composée de tous les fils qu'il a engendrés pour Dieu. En même temps, c'est sa maison et c'est lui qui l'a construit, en fait, cette maison. Et puis, si nous allons au chapitre 12, mais le chapitre 12 fait suite au chapitre 11, qui est très long, et je vais vous lire quand même au tout début du chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et puis je vais au verset 39 à 40, de là j'enchaînerai sur le chapitre 12. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, chef et consommateur de la foi dans la version second traditionnelle. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Constamment dans cette épître sont rappelées les souffrances de Christ, parce que tout a été rendu possible à cause de cela. Mais donc, ceux qui croient en la réalité invisible et qui font confiance à Dieu pour leur salut. Dieu voulait qu'un grand nombre puisse entrer dans cette dimension de la foi. Donc dans ces passages, et d'autres encore, Jésus est présenté comme chef, auteur, pionnier, précurseur, initiateur. Alors les traducteurs se confondent en nuances, mais l'affirmation fondamentale, c'est que Jésus a tout fait pour nous et à notre place. À partir du moment où il est venu, il a pris en charge tout notre salut. Et il nous a indiqué la marche pour hériter du salut, qui est une marche dans la foi, qui est de croire en ce que Dieu a décidé et a fait pour nous. Donc, chef, auteur, pionnier, précurseur, initiateur de notre salut et de la foi. Deuxièmement, son opération a été définitive et parfaite. Premièrement, en ce qu'il est descendu sur la terre pour sceller une alliance par son sang. Par la croix, Christ s'est engagé à intercéder pour nous concernant toutes nos fautes. Chapitre 7, versets 22 à 27. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente que celle faite à travers Moïse. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Chapitre 12, verset 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà la raison de l'incarnation de Christ, de venir sceller l'alliance. Ce n'est pas un contrat qu'il est venu passer avec des hommes, un contrat réversible, etc. Non. Il est venu sceller une alliance. Il est venu engager Dieu, parce que c'est de la part de Dieu qu'il a fait cela. Il est venu engager Dieu dans notre salut. Et ça s'est fait une fois pour toutes lorsqu'il est mort sur la croix. L'alliance était faite, scellée une fois pour toutes. Ça ne peut plus être remis en cause. Et suite à cette offrande, suite à cette alliance scellée sur la terre, il s'est rendu au ciel, où, si on présente les choses sous un autre angle, Dieu l'a ramené auprès de lui dans la gloire. En fait, il est retourné de là où tout a démarré. Parce que c'est dans le cœur de Dieu, dans les intentions de Dieu, dans la gloire de Dieu, que tout cela s'était décidé. Et ayant accompli l'œuvre, il est remonté pour se présenter pour nous devant la face de Dieu, pour faire valoir son sacrifice devant la face de Dieu. Nous venons de lire qu'il est plus élevé que les cieux. Et nous lisons aussi au chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, alors vous remarquez le terme qui revient en permanence, souverain sacrificateur, le grand prêtre, celui qui fait la médiation. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il a traversé les cieux et il est établi maintenant au trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher de Dieu par grâce et être secourus dans nos besoins. Chapitre 5, verset 10. Que j'ai lu tout à l'heure. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 6, verset 18, deuxième partie du verset jusqu'à 20. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par des hommes. Et enfin, chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà ce qui s'est passé après la résurrection de Christ. Il a traversé les cieux. Il est entré là, dans le lieu de la gloire et de la présence éternelle, pour y présenter son sacrifice, le sang de notre rédemption. Il est établi pour cela. Et en cela, donc, il est le garant et le médiateur de notre salut, pour toujours. Par lui, tout le salut est une fois pour toutes et pour toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Définitivement, Jésus est celui qui plaide auprès du Père en faveur des pécheurs que nous sommes. Et si quelqu'un a péché, dira l'apôtre Jean, nous avons un avocat, une autre façon de présenter, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. La conclusion, c'est que cette histoire et ce message sont destinés à recueillir notre assentiment total. En suscitant foi, obéissance, adoration et louange. C'est le but de la parole de Dieu et de la prédication. Susciter foi, obéissance, adoration et louange. Nous reconnaissons l'auteur et le médiateur éternel du salut en Jésus-Christ. Nous respectons ses droits. Nous ratifions les termes de son alliance. Nous ne nous présentons pas à Dieu à nos conditions, mais aux conditions que lui a établies et réalisées pour nous. Nous ne lui volons rien de sa gloire. C'est sa gloire à lui de nous avoir sauvés. Ce n'est pas la nôtre. Notre gloire, c'est de croire. C'est d'accepter et d'entrer dans le même chemin d'obéissance, dans l'espérance de ce qu'il a préparé pour nous, pour la vie éternelle. Le salut vient d'en haut. Il a démarré d'en haut et il se réalise maintenant en haut, dans les cieux, après qu'il soit passé sur la terre et été jusqu'en bas, jusqu'au plus bas. L'auteur de notre salut s'offre à nous, à notre foi, pour un aujourd'hui plein de reconnaissance et de sainteté. Un auteur, dans la culture, tout simplement, un auteur, c'est celui qui écrit quelque chose de particulier, d'original, et une fois qu'il a écrit ces choses, il y a un droit sur ce qu'il a écrit, droit d'auteur. Et beaucoup d'auteurs, justement, sont là pour essayer d'apporter quelque chose qui va marquer, en fait, l'esprit, la pensée, les habitudes, les comportements, les conceptions des hommes. Et ce n'est pas rien, d'ailleurs, que d'être un auteur. On influence beaucoup de monde. Mais le Seigneur est l'auteur de notre salut. Tout cela a été écrit, rédigé, on peut dire, dans les cieux, dans l'éternité, depuis les jours de l'éternité. Et cela a été écrit dans la chair de Jésus. Et maintenant, cela est lu, reçu, accepté et mis en pratique par les croyants. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment dans l'assurance de ce qu'il a fait pour vous en Jésus-Christ et à travers l'obéissance que vous manifesterez aujourd'hui, dans les jours qui viennent et jusqu'à la fin de votre vie pour arriver dans la gloire qui est préparée et que Dieu puisse se manifester et être un jour tout et en tous comme cela est annoncé. Amen.